Bauch, die ist manchmal...
Ja, mein Kopf ist zur so. Und so, genau, einfach wirklich. Und auch, also ja, natürlich, du spielst auch moderne Geige, ich weiß. Aber versuch die Barockgeige ein bisschen weiter einzunehmen. Okay. Weil auch dadurch entsteht so ein bisschen, die Geige ist irgendwo da hinten, der Rest des Körpers ist irgendwo anders. Man möchte das Gefühl haben von hier bin ich. Ja, ja.
Bonjour David Mestri.
Bonjour Jean-Luc Rivère.
Une fois qu'on a construit ce violon baroque, encore faut-il savoir le jouer. Et ça tombe bien puisque dans le cadre de cet atelier de Gruyère qui nous occupe cette semaine, eh bien, il y avait d'un côté un atelier de lutherie et puis de l'autre un cours de maître.
Un cours de maître donné par Claudia Hoffmann, violoniste allemande très au fait de ce répertoire baroque. D'ailleurs, on ira en France et en Italie aussi aujourd'hui. Et avec François Gautreau, que l'on vient d'entendre, qui se remet en question, le violoniste du Quatuor Ciné nominé, pour s'approcher de ce répertoire baroque et de cette façon spéciale qu'ont les violonistes, notamment suisses au XVIIe siècle, de poser l'instrument contre leur poitrine et non plus maintenu sous le menton. Ça fait une grande différence, c'est une difficulté quand on n'a pas l'habitude.
Alors aujourd'hui, petite leçon d'interprétation baroque avec Claudia Hoffmann, qui nous vient d'Allemagne, et qui nous donne ce cours de maître sur cet instrument.
Avec Catherine Buzer pour la traduire. Alors Claudia Hoffmann, vous êtes de retour à Gruyère pour une nouvelle classe de maître comme vous l'aviez donnée il y a 4 ans je crois. Est-ce que vous avez retrouvé des anciens élèves de violon baroque ici à Gruyère?
Ja, einige sind wiedergekommen und zwei neue sind dabei.
Oui, quelques-uns sont revenus, deux sont nouveaux, dont l'un qui était déjà auditeur, mais cette fois il vient jouer. Et quant aux autres, eh bien, je les ai connus la dernière fois, c'était bien de les rencontrer à nouveau.
Est-ce que le thème de cet atelier sur l'école anémanique de construction de violon du XVIIe siècle est lié avec votre cours? Est-ce que vous enseignez particulièrement des pages du XVIIe siècle suisse ou du sud de l'Allemagne?
Pas directement, j'ai de la musique autrichienne au programme. Oui, c'est un peu à proximité et aussi dans le temps. Et puis nous avons joué Schmelzer et Bieber. Et nous avons commencé avec la musique ancienne italienne, puis Schmelzer et Bieber. Et maintenant nous faisons un peu de musique anglaise, Matthew Locke, et de musique française. Donc en quelque sorte, j'ai commencé d'en bas, avec la musique la plus ancienne qu'il y ait pour le violon. Et puis nous avons un peu avancé sur ces bases.
Vous avez plusieurs violons baroques vous-même, Claudia Hoffmann. Vous aimez jouer les répertoires différents avec différentes écoles de lutherie aussi?
Non, moi-même je ne joue qu'un seul violon, mais j'ai plusieurs archets.
Et vous connaissez les violons de cette Allemannische Schule?
Non, malheureusement pas, mais ça m'intéresserait.
Ils sont très jolis à voir, mais c'est vrai qu'on rêve de les entendre. Pour l'instant, celui qui est construit à côté n'est pas encore en état de jouer. Et le luthier Andreas Korczak m'a dit que le son, c'est un mystère jusqu'à la fin, plus ou moins. Also, il semble que l'histoire de l'interprétation veut qu'on va de plus en plus spécialiser les instruments avec le répertoire. Mm-hmm. Vous pensez que dans une génération, peut-être Claudia Hoffmann, on jouera les musiciens avec les instruments, les violons différents, alors que le violon est justement une sorte de standardisation de la grande école italienne?
Oui, mais ce n'est pas si facile d'avoir plusieurs instruments. Par exemple, j'ai eu récemment un violon Renaissance, très ancien, un des violons de Freiberg. Ce sont des reconstructions de très anciens instruments conservés à Freiberg, en Saxe. Et ça a été une vraie révélation de jouer sur ce violon, avec aussi son archet. Mais dans la réalité, qui peut avoir autant d'instruments différents, malheureusement.
Meine Geige ist sehr früh und
Mon violon est très ancien. On dit qu'il vaut mieux avoir un instrument ancien pour de la musique plus récente que le contraire. Parce que bien sûr, les gens à l'époque ont parfois joué des instruments anciens. Et évidemment pas le contraire. Ça va assez bien avec le changement d'archet. Quand je joue du classique, du Mozart ou du Haydn, j'emprunte à un collègue un violon classique. Comme ça, c'est résolu pour le moment.
Parce que votre violon, c'est quoi comme violon ?
Une Fichtel von 1700. Süddeutschland, ja.
C'est un violon Fichtel de 1700 du sud de l'Allemagne. Il est en fait apparenté au modèle Steiner, donc avec une voûte très marquée, à peu près comme le modèle de Steiner.
Puisque vous pensez, Claudia Hoffmann, que comme pour la découverte de répertoires des pianos anciens, par exemple, il y a des répertoires qui ont besoin de l'instrument approprié pour avoir du sens, qui paraîtrait peut-être un peu médiocre sinon. Avec le violon, c'est possible que mit der Violine kann man auch vielleicht untergeschätzte Komponisten anders hören können.
Also das ist bestimmt eine gute Idee. Ich habe jetzt im Kurs einfach den Fall gehabt, dass die meisten Teilnehmenden kamen mit sehr langen Bögen, die eigentlich zu spät sind.
C'est sûrement une bonne idée. Je viens d'avoir le cas dans le cours que la plupart des participants sont venus avec des archets très longs qui sont en fait trop tardifs. Moi, j'ai justement maintenant depuis peu un petit archet Biber, donc un modèle Biber, et je suis très heureuse avec lui. J'avais déjà joué avec des archets courts auparavant, mais cet archet spécial est neuf et je l'ai aussi fait essayer autour de moi et cela fait vraiment une énorme différence. D'autres ont des instruments qui sont très tardifs et on ne peut pas faire certaines choses. Alors bien sûr, l'instrument et l'archet aident toujours à trouver le chemin pour jouer correctement. Naturellement, il faut connaître l'interprétation, la pratique d'exécution, mais le bon artisanat, je dirais, c'est toujours bien d'être aussi près que possible de l'époque, ça c'est clair. Il faut faire plus l'articulation comme elle est écrite, n'est-ce pas ? C'est vraiment génial d'avoir affaire à Couperin, parce qu'il écrit vraiment tout, tout. L'articulation, chaque ornement, et on peut apprendre et le reporter à d'autres pièces où ce n'est pas écrit. L'avantage, c'est que tu articules vraiment ici et que tu te poses. Le principe de base, c'est de lever l'archet devant les notes qui doivent être bien appuyées, celles qui ont une accentuation, les appoggiatures avec trilles ou celles qui ont le poids, comme là, dans ce motif du début. Donc, lever l'archet d'avant, comme ça on peut bien poser la note d'après.
Genau. Gut. Und der Triller, der soll relativ schwach sein, weil ja auf der unbetonten Zeit ist, der ist nicht so wichtig. Mhm. Wow, ja, die sind unbetont, da hatten wir heute Morgen schon.
Mhm. Heb. Soll ich das machen?
Ja. Ganz sowas, genau. Es war jetzt aber auch an der Grenze langsam, kann man es machen. Und eben auch vom Streichen her, weißt du, nicht ein Klang, der nicht so direkt drin ist, sondern ein bisschen mit so ein bisschen Luft.
Que vous enseignez, Claudia Hoffmann, à ses élèves, donc, qui est la manière de jouer de l'époque, est-ce qu'elle est standardisée? Aujourd'hui, on dit baroque et on pense que tout était semblable, mais il faut enseigner différemment différentes écoles nationales, par exemple, de l'époque baroque.
Also wir haben jetzt eben gerade italienisch-österreichisch gemacht und dann Frankreich mit England ist relativ nahe. Und es ist mir jetzt wieder aufgefallen, wie unterschiedlich die Verzierungspraxis ist. Also natürlich weiß ich das, aber einfach beim Unterrichten zu merken, dass manche französische Musik spielen und die Reflexe noch haben von den italienischen Verzierungen. Und ich muss das nochmal richtig erklären.
Oui, absolument, c'est très important. Nous avons fait des pièces italiennes et autrichiennes. Ensuite, la France et l'Angleterre sont assez proches. Et ça m'a frappé de nouveau de voir comment la pratique d'ornementation est différente. C'est-à-dire que, bien sûr, je le savais, mais simplement de remarquer pendant la leçon que quand on passe à la musique française, il ne faut pas garder les réflexes de l'ornementation à l'italienne, je dois expliquer comment jouer sur le temps et tout ce qui concerne les gestes est à expliquer. Il y a de grandes différences, surtout entre l'Italie et la France, qui étaient d'abord assez opposées. Puis vient l'influence italienne sur la France, et la musique française s'inspire de plus en plus de l'Italie. Mais d'abord, la musique française est très, comment dire, stylisée, fermement établie, et les ornements sont la plupart du temps essentiels. Alors qu'en Italie, et dans l'Autriche et l'Allemagne influencées par l'Italie, il y a beaucoup plus de liberté dans l'ornementation. On peut ornementer beaucoup, improviser de façon effrénée. Mais la manière de jouer, les virtuoses du temps de Bieber et de Schmelzer sont souvent allées prendre des cours auprès de violonistes tziganes qui les ont influencées. Et cela peut être très sauvage, très virtuose. Dans la virtuosité, l'individualité est au premier plan, alors que la musique française est plus stylisée, plus élégante, même un peu plus mesurée, pourrais-je dire.
Et alors vous, Claudia Hoffmann, parmi ces élèves de conservatoire et professeurs de conservatoire, vous vous sentez un peu comme une Zigeunerin, die
bei wem? Ja, unbedingt, ja. Auf alle Fälle, ja.
Ja, ich kann gar nicht alles an alles denken, weil das sich noch neu anhört.
Dann ist okay. Mach mal den zweiten noch, wenn du noch kannst.
Gerne. Ja, schauen wir mal, wie ich über die Runden komme mit den 16. Genau. Schauen wir mal.
Quelques accents de ce cours de maître, dispensés là par Claudia Hoffmann, David Mestri, traduite par Catherine Buzer, avec des élèves aux prises avec cet art si particulier de toucher, de jouer un violon baroque.
Voilà, des élèves du conservatoire de Fribourg notamment. Et on va passer du violon au violoncelle maintenant, si vous êtes d'accord, puisque c'était l'un des sujets aussi de cette semaine de l'atelier de musique ancienne de Gruyère. Deux concerts donnés par trois violoncellistes pour les suites de Jean-Sébastien Bach. Et les trois sont à mon micro, Hajer Annana, franco-tunisienne, et puis les deux alémaniques, Bernard Maurer et Martin Bierenstiel.
Thank you. qui est important pour moi, c'est la conduite, en fait. On peut articuler, on peut avoir le bon caractère des danses, on peut, dans les préludes, il y a les directions harmoniques de Bach qui sont extrêmement claires. Et nous avons, je trouve, le devoir comme instrumentiste de conduire tout ça. Donc au-delà des articulations, c'est très important qu'il y ait un souffle. Et bon, c'est l'archet, mais c'est aussi la respiration. C'est...
Il y a un tempo qui s'impose, par exemple ?
Il peut y avoir des tempi qui s'imposent, mais là, ce n'est pas seulement un sentiment, ça peut être aussi un choix. On peut choisir un tempo, et ce sera le tempo qui permet la meilleure conduite. Voilà, pour moi.
Et puis, pour ce qui est de l'articulation, est-ce qu'on doit suivre un texte très fiable ? On sait que les musicologues se sont penchés depuis des siècles maintenant sur l'établissement d'un ourtexte, comment dire. Est-ce qu'il faut suivre les liaisons notées par Anna Magdalena, je crois, dans le manuscrit original ?
Bon, j'ai un peu lu autour de ça. Bon, c'est le seul manuscrit... disons, de la famille que nous ayons, hein, celui de Bach est perdu, mais il y a quand même beaucoup d'erreurs, beaucoup d'incohérences, c'est pas toujours évident de savoir où sont placées les liaisons, et en travaillant la cinquième suite, j'ai eu le manuscrit de Bach, par contre, et aussi une tablature qui a été réécrite en notes. Ça m'a beaucoup déculpabilisé, je dirais, de voir cette tablature écrite en notes. Il y a des liaisons complètement incohérentes qui ne sont absolument pas celles de Bach, qui ne sont pas des liaisons expressives, mais des liaisons de commodité. Simplement, le luthiste joue sur une corde, eh bien, il lira tout ce qu'il joue sur la même corde. C'est ce que j'ai compris en parlant à des luthistes. Ça m'a déculpabilisé énormément pour ce qui est des liaisons au violoncelle. C'est-à-dire que, évidemment, j'essaye de respecter autant que possible ce qui est marqué dans le manuscrit d'Anna Magdalena. Et si je vois, si je sens que pour la conduite, justement, des phrases, j'ai besoin d'autre chose, je culpabilise absolument plus de le faire. Voilà.
Et puis cette préférence pour la cinquième suite à Gérard, c'est une des plus élaborées. Il y a un début un peu à la française. Oui. Ça tient à ça, peut-être ?
Oui, justement, par rapport à ça, par rapport à ces rythmes à la française, évidemment... On sait exactement comment on utilisait l'archet pour faire ses articulations. Alors, curieusement, dans le manuscrit d'Anna Magdalena, les rythmes à la française ne sont pas notés. Alors, dans le manuscrit de Bach pour le luth, ils le sont. Alors, j'ai choisi, en fait, de plus tenir compte du manuscrit de luth que de celui d'Anna Magdalena. Mais dans la réalisation, c'est aussi important pour moi de sentir où on va dans ce prélude, hein, de bien montrer où on va. Et je choisis donc, parfois... de réaliser ces surpointages d'une façon qui n'est absolument pas orthodoxe, qu'on pourrait même me reprocher. Mais voilà.
Qui est personnel ou qui ressemble à la musique française ?
Ah non, non, ça ressemble tout à fait. Disons que quelqu'un qui ne verrait pas ce que je fais ne pourrait pas savoir. Mais c'est un choix personnel. D'ailleurs, l'étude des manuscrits est très importante. Aussi le respect de certaines règles. Mais quand même, le musicien a aussi sa place et je ne pense pas être là juste pour respecter un manuscrit et des règles préétablies.
C'est mon idée de réunir trois instruments différents et trois instrumentistes différents qui jouent sur des instruments avec les cordes en boyau,
des instruments à l'ancienne, mais pas voilà. De l'école alémanique cette fois.
Non, c'est des instruments par contre qui, pour la sixième suite par exemple, c'est un instrument à cinq cordes, qui est donc exactement l'instrument que Bach avait en tête quand il a écrit sa sixième suite.
Parce que Bach, les instruments de l'époque de Bach, on sait s'ils ressemblaient peut-être un peu à cette école de l'Allemagne du Sud. C'est quand même assez éloigné où il est en Thuringe. On connaît les instruments, l'instrument idéal pour jouer Bach
Non, ça je ne pense pas. Par contre, la tradition du sud de l'Allemagne n'est pas très éloignée des violons qu'on fabriquait plus au nord encore des Alpes. Notamment la monture des éclisses sans moule, Ça, c'est des particularités de la Alemannische Schule qu'on retrouve dans les instruments plus nordiques encore. Et la mention de Kleine Bassgeige, donc un peu l'équivalent du violoncelle à l'époque, ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans les documents de l'époque et de la région de Bach.
Mais donc, cette idée, c'était d'avoir ces instruments différents pour jouer les suites, pour faire un contraste à la fois avec des jeux différents, des interprètes différents et des instruments.
Oui, c'est ça, qui me semblait intéressant. Et puis, il y avait aussi la réalité, en réalité, la difficulté d'organiser 3 concerts, puisque c'est notre rythme annuel, uniquement sur la musique de la Alemannische Schule et uniquement sur des instruments qu'on est en fait en train de redécouvrir. Il en existe très peu de copies. Et le répertoire qu'on peut jouer sur ces instruments, un répertoire vraiment authentique, est assez limité aussi. Donc, notre souci était un petit peu d'ouvrir l'éventail de la programmation des concerts à un public un peu plus large. Voilà.
Martin Bernstiel, c'est vous qui avez 2 violoncelles, donc vous allez jouer la 6e suite dans ces concerts.
Oui, la première et la 6e. Oui.
Donc vous avez 2 violoncelles différentes, puisqu'il faut 5 cordes pour la 6e suite, c'est
oui,
bien ça?
Oui, c'est correct, oui.
Vous ne la jouez jamais sur un violoncelle à 4 cordes?
Je vais essayer, mais c'est assez dur.
C'est plus simple alors, c'est un instrument ancien?
Non, je joue ça sur 5 cordes, parce que c'est encore plus dur à jouer. C'est écrit pour 5 cordes, alors je joue sur 5 cordes.
Et vous avez un instrument ancien ou c'est une copie?
Non, c'est une copie, mais je ne sais pas de quoi.
Ah oui. On parle de viola pomposa aussi, les musiciens se demandent.
Viola pomposa, c'est différent.
Oui, c'était pas écrit, mais donc la 6e suite de Bach est vraiment pour un violoncello de ce genre que vous jouez.
Qu'est-ce que je dis maintenant? Alors moi, je préfère le violoncelle à 5 cordes, parce que moi je joue le violoncelle.
Et puis, quand on doit jouer à 3 un concert des suites de Bach, il faut se répartir les suites. Donc vous avez naturellement la 6e à cause de votre violoncelle.
Oui.
Et puis ensuite, vous n'avez pas eu de dispute entre musiciens avec Ager Anana et avec Bernard Maurer pour décider quelle suite vous alliez jouer?
Non, pas vraiment, non.
Parce que vous êtes des gens civilisés ou parce que vous aimez justement des suites
pas
différentes?
Alors moi, j'avais dit peut-être pas la 4e.
Ah oui.
Et alors, après, c'était Bernard qui a fait le dispositif qu'on va jouer. Et je trouve que c'est très bien, comme nous jouons maintenant.
Et de faire une seule suite dans un concert, c'est aussi plutôt agréable?
C'est surtout plus agréable que jouer 3 suites. J'espère que j'ai le temps à écouter les autres. Je trouve que c'est très intéressant pour nous et pour le public aussi, parce qu'on a 3 différentes interprétations, on a 3 différentes vues de la musique de Bach et on a 3 différents instruments.
Martin Bernstiel, est-ce que vous connaissez Andreas Korczak, le luthier qui est maître du stage ici à Gruyère cette semaine, qui construit des instruments de cette Alemannische Schule et d'un facteur bernois, justement?
Non, malheureusement, Pas encore.
Et ce violon et violoncelle de Chalet, qui sont de cette école alémanique, est-ce que vous en aviez entendu parler? Vous avez eu l'occasion d'en jouer?
Non.
Donc, Bernard Maurer, vous n'avez pas eu de graves disputes pour choisir les suites que vous alliez jouer. Donc, vous, les troisième et quatrième suites, c'est un choix donc logique ou selon votre cœur ou...
D'abord, c'était clair que Martin va jouer la sixième parce qu'il est le seul à avoir un violoncelle piccolo à cinq cordes. Ça, c'était clair d'abord. Et puis, une question toujours, c'est qui va jouer la quatrième parce que... Elle est assez dure pour la tonalité, parce que c'est pas une... toutes les autres suites sont dans une tonalité qui convient très bien au corps David du violoncelle. C'est Do majeur et Ré mineur. Et puis là, Mi bémol majeur, il y a moins de résonance et il y a plus de tension dans la main. C'est pour ça, elle est très très jolie, mais elle s'offre pas si facilement que les autres. Et moi, j'ai souvent évité de la jouer. Et j'ai joué, mais pas les autres suites. J'ai joué beaucoup plus. Et puis j'ai pensé, c'est une occasion de la retravailler profondément. Et je suis très content de l'avoir fait parce que musicalement, c'est fantastique. C'est comme ça. Alors on avait déjà décidé les deux suites. AG, elle a dit qu'elle aimerait bien jouer la cinquième. Comme ça, ça s'est donné comme ça. Et puis, on est arrivé à une jolie symétrie comme ça, ce que je trouve aussi assez bien qu'on change
l'ordre de passage pour les deux
parties. Oui, voilà.
Et quel est l'instrument que vous jouez, Bernard Maurer?
C'est un instrument assez difficile à dire. C'est l'école italienne de Maggini. Il y a des luttes qui ont dit peut-être c'est un vrai Maggini, peut-être d'autres disent c'est une copie, peut-être hollandais parce qu'il y a des ornements qui sont faits de baleines, mais moi j'en sais rien exactement ce que c'est, mais pour moi c'est important comment ça sonne. Ouais. Et en tout cas c'est très vieux et je crois que cet instrument avait une vie très turbulente.
Ben, on voit quelques marques.
Il y a beaucoup de changements.
Une couleur foncée.
Oui. Et il raconte, quand on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais quand il joue, on sent quelque chose de cette histoire, je trouve. Et c'est un témoin de l'époque. On peut s'imaginer qu'il avait déjà 50 ans quand Johann Sebastian Bach est né. Oui, je trouve fantastique. Il connaît probablement la musique mieux que moi. Hein.
Très bien. Et c'est un instrument que vous jouez pour toute la musique sur instrument historique ou vous avez d'autres violoncelles?
J'en ai trois, mais je joue la musique ancienne jusqu'à la musique classique sur cet instrument-là, c'est-à-dire jusqu'à peu près à Beethoven, je joue sur cet instrument.
Et vous avez l'occasion de jouer sur instrument historique des musiques du 19e siècle, alors plus récentes aussi?
Oui. Jusqu'à Schubert, Schumann aussi. Oui. Mais là, c'est au fond, si on veut avoir des instruments historiques, on devrait avoir une dizaine pour tous les 20 ou les 30 ans. Bon, mais c'est aussi historique qu'on avait toujours des différents instruments, pas toujours exactement adaptés à...
Pas toujours des instruments neufs, effectivement.
Voilà. Comme ça, on a une certaine
diversité parmi les musiciens. Merci beaucoup, Bernard Marois. Je vais vous écouter un peu, tester l'acoustique. Merci.
Quelques accents de Bach, là sous les doigts et sous l'archet de Bernhard Maurer, qui faisait partie de ce double concert intégral des suites pour violoncelle de Bach à Gruyère, dans le cadre de ce 8e atelier de musique ancienne. On va retourner auprès de cette violoniste baroque qui dispensait sa masterclass, comme on dit en français.
Claudia Hoffmann, deux fois donc à Gruyère entre 2006 et 2010, et qui était à Lausanne ici, dans un concert capté par Espace 2, avec son ensemble La Beata Hollanda. Je vous propose d'écouter de la musique pour violon de William Braid pour commencer.
On va écouter ça, mais grand merci à vous David Mestri d'être allé à Gruyère fréquenter ce 8e atelier de musique ancienne, à Philippe Moterio, qui est un peu l'âme de cette manifestation.
Qui est le fondateur, l'instigateur.
À Marie-Claude Cudry, qui est notre réalisatrice cette semaine. Et puis Isabelle Watson, assistante de production, proposition de Jean-Luc Rider. Et nous donc, on se quitte avec Claudia Hoffmann et ses petits camarades.
Thank you.
intéresse. Chaque émission de Musique en mémoire se commande au 026 323 24 24. Elle se podcast, comme on dit, désormais également. Et nous, c'est lundi que nous nous retrouvons dès 14h. Vous écoutez Espace 2, il est 15h.